Ça y est, vous êtes sur l'insert, je raccroche. Bonjour tout le monde, vous êtes sur le 101.5 de la bande FM avec la rubrique À l'assaut pour Radio G. Alors À l'assaut donne la parole à toutes les associations du territoire et aujourd'hui nous accueillons Madame Pauline Tétillon qui est coprésidente de l'association nationale Survie. Bonjour Madame Tétillon.
Bonjour.
Alors comme vous pouvez l'entendre, ou peut-être pas, je ne sais pas, ça, c'est vrai que nous avons un bon son, Madame Tétillon n'est pas présente dans notre studio. Pour cause de Covid, nous allons donc faire l'interview par téléphone. Survie est une association nationale de loi 1901 qui a été créée en 1984, si j'ai bien vu, et qui possède une structure nationale, mais également des antennes dans différentes régions de France. Il y en a une à Angers, on en parlera tout à l'heure. Et le thème privilégié, je dirais, d'action de Survie, c'est la France-Afrique. Alors pour commencer, je vais vous demander ce qui a motivé la création de cette association Survie.
Alors Survie, c'est une association qui a été créée, donc, comme vous venez de dire, il y a bientôt 40 ans. Et c'était une association, à l'origine, c'est même une campagne qui a été menée en France, mais aussi dans différents pays européens pour faire voter une loi de survie par les différents parlements. Et l'idée étant d'améliorer, de renforcer l'aide publique au développement pour qu'elle aille directement aux bénéficiaires. Donc c'est des campagnes nationales et européennes, et c'est comme ça qu'est née l'association Survie, et d'où son nom. On était de faire voter des lois de survie.
D'accord. Alors, est-ce que vous venez de le dire, après 38 ans d'existence, est-ce que les motivations du début sont aussi prégnantes et aussi importantes en quantité, je dirais, qu'aujourd'hui? Au démarrage.
Alors en fait, l'association a complètement changé d'objet dans les 10 premières années, en fait, puisque cette loi de survie qui était de demander, malgré une mobilisation très très importante au niveau national, malgré la mobilisation de députés, de personnalités, de sportifs, même de footballeurs d'ailleurs, cette loi n'a jamais été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française, alors que dans les autres pays européens, ils ont réussi à la faire voter. Et donc, en fait, petit à petit, au fil de ces campagnes, les membres de l'association se sont rendus compte que finalement, l'aide publique au développement, c'est une aide qui était souvent détournée, qui était utilisée pour corrompre les chefs d'État africains, notamment des dictateurs, pour soutenir l'implantation des entreprises françaises dans les anciennes colonies françaises, et qu'en fait, l'aide publique au développement n'était pas une solution, mais faisait partie du problème. Et il y a eu toute une découverte en fait du système qui a été mis en place au moment des indépendances, et même qui a été pensé avant la mise en place des indépendances, pour maintenir la présence française dans ces anciennes colonies. Il y a eu un gros tournant en 1994 en association, puisqu'en 1994, il y a eu le génocide Tutsi au Rwanda. Et les membres de l'association se sont rendus compte que la France était impliquée dans ce génocide, puisqu'elle soutenait le pouvoir génocidaire, elle l'a soutenu avant, pendant et après le génocide. Donc aujourd'hui, finalement, Survie a changé d'objectif. L'idée, c'est pas de promouvoir l'aide au développement, c'est plutôt une critique de l'aide au développement. Et plus globalement, on décrypte l'actualité de la France et de l'Afrique, et on dénonce toutes les mesures, tous les outils, tous les systèmes qui permettent de maintenir la présence de la France dans ses anciennes colonies, la mainmise de la France dans ses anciennes colonies et au-delà en Afrique, que ce soit d'un point de vue économique, diplomatique et aussi la présence de l'armée française.
D'accord. Alors sinon, j'ai vu que Survie est membre fondateur de plusieurs associations et même participe à différents collectifs dont les objectifs sont politiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est des objectifs politiques qui sont dans la continuité, des ramifications de notre combat, puisque notre combat est éminemment politique. Il y a plusieurs axes, il y en a beaucoup, mais il y a la plateforme paradis fiscaux et judiciaires dont Survie est membre fondateur, qui lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui par les entreprises françaises et pas que, pour rapatrier leurs bénéfices, notamment fait en Afrique, mais aussi ailleurs, et pour échapper à l'impôt. Et les paradis fiscaux judiciaires sont les principaux outils qui, qui font que l'Afrique ne bénéficie pas des activités économiques des entreprises françaises ou autres, même là-bas. Il y a aussi la plateforme dette et développement, puisque la dette est un des instruments qui maintient ces pays dans la pauvreté, souvent issus justement de l'aide publique au développement, puisque ce ne sont pas forcément des dons, mais des prêts qui sont faits à ces États, donc il faut les rembourser. Donc voilà, il y a la plateforme dette et développement. Je pense au collectif Secret Défense, qui existe depuis plusieurs années. Le Secret Défense étant un des outils qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à obtenir la vérité dans un certain nombre d'affaires, notamment le rôle de la France dans le génocide du Tutsi au Rwanda. On se heurte en fait dans l'accès aux archives au Secret Défense.
D'accord.
Et puis, je peux peut-être en dire un dernier, il y a Tournons la page, qui est un mouvement international pour la démocratie en Afrique, donc un mouvement en Europe, mais aussi dans différents pays africains, qui promeut l'alternance et la démocratie dans ces pays-là, et qui travaille aussi des fois sur le soutien de la France à certains autocrates. Et en ce moment, on travaille beaucoup avec eux sur la question, enfin, on travaille avec eux sur la question de la présence française au Sahel, de l'armée française au Sahel.
D'accord. En fait, ce sont des structures que le grand public ne connaît pas forcément. Moi, vous venez de citer quelques-uns dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et finalement, votre action se passe beaucoup dans l'ombre du grand public, quoi.
Bah, en fait, on essaye de le faire connaître, mais c'est un sujet qui est globalement dans l'ombre. De toute façon, la France-Afrique, donc c'est Turbi, l'ancien président Turbi, qui est François-Xavier Merchave, qui a fait connaître ce mot et ce concept de France-Afrique. En fait, il l'a rendu connu dans la fin des années 90, et on nous a au début répondu que ça n'existait pas, et très rapidement, on nous a dit, tous les présidents qui se succédaient au pouvoir ont dit que ça n'existait plus. Aujourd'hui, on entend beaucoup « la France-Afrique, c'est du passé », alors qu'en fait, c'est bien réel. La France-Afrique, certes, a énormément évolué, s'adapte au contexte, mais c'est quelque chose qui est assez peu connu, donc on essaye de faire connaître ça, justement. C'est un de nos rôles principaux. Mais effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui est particulièrement connu, malheureusement.
D'accord. Et quel lien vous avez survie avec ATTAC ?
ATTAC, alors je n'étais pas survie à l'époque, mais on fait partie des membres fondateurs d'ATTAC. Et puis aujourd'hui, même si les liens ne sont pas très, très resserrés, mais on travaille de temps en temps avec eux sur certains sujets, et notamment localement, dans les différents groupes locaux. Ça nous arrive d'organiser des événements en commun, notamment quand on parle d'aspects économiques de la France-Afrique, mais pas seulement. Voilà.
Okay, d'accord. Et en fait, donc 38 ans d'existence, on sait tous qu'une association a besoin de finances pour vivre. Et 38 ans d'existence, c'est déjà un bel âge. Et comment faites-vous justement pour vivre financièrement? Quelles sont vos ressources?
Alors, nos ressources sont essentiellement basées sur les dons et les adhésions des militants, sur les ventes de bouquins, sur les ventes aussi. On a un mensuel qui s'appelle Billets d'Afrique d'ailleurs. Et donc, c'est possible de s'y abonner, ça fait partie de nos ressources. Donc, en tout cas, c'est l'essentiel de nos ressources, et c'est surtout ces ressources-là qui assurent notre indépendance. Nous avons un recours à parfois des subventions, dans une moindre mesure, mais notre indépendance est basée sur les dons et les adhésions, qui sont en érosion, comme un peu dans toutes les associations aujourd'hui. Nous avons besoin de ça pour vivre et pour continuer notre mouvement.
D'accord, effectivement, on le constate tous dans les associations, on a de moins en moins d'adhésions. Alors, au niveau national, justement, votre structure représente combien de bénévoles?
Alors, on a à peu près 1 millier d'adhérents.
Ah oui, c'est pas mal.
Voilà, et en bénévoles actifs, je pense qu'on a un bon taux, puisque comme on a une vingtaine de groupes locaux en France, avec des membres actifs, parfois de ça qui peut valer de 2 à 1 dizaine de personnes, peut-être qu'on a, je dirais, entre plusieurs dizaines de bénévoles actifs qui soit organisent des événements dans les groupes locaux, écrivent des articles dans le milieu d'Afrique, font de la recherche, parce que une partie des bouquins qu'on sort dans la collection Dossiers Noirs sont écrits par des bénévoles. Voilà, donc je dirais une cinquantaine, soixantaine peut-être de personnes actives. Alors ça évolue au fil du temps, mais voilà.
Ok. Et vous avez des salariés aussi?
Oui, on a 3 salariés au niveau national. On a une personne en charge des questions administratives et financières, une personne en charge de l'animation, du réseau et des mobilisations, et une personne en charge de la communication.
Alors pour finir avec, avec la structure nationale, je dirais, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes basé à Paris et les coordonnées, et après on parlera de l'antenne d'Angers.
Alors à Paris, on est rue Voltaire, pas loin de Nation, dans les locaux du CICP. Donc ça, c'est là où est notre bureau. On a un site internet qui s'appelle survie.org et on a un compte Twitter qui s'appelle Survie aussi, un compte Facebook Survie et puis un compte Instagram aussi qui s'appelle Survie Off O2F pour nous suivre. Voilà.
Ok. Et alors, puisque maintenant nous allons parler de l'antenne d'Angers, elle existe depuis quand ?
L'antenne d'Angers, eh ben, elle va avoir 10 ans, je pense, là, en début d'année. Ça fait à peu près 10 ans.
Ouais. D'accord, c'est pas mal.
Oui.
Je ne vous demanderai peut-être pas combien de bénévoles il y a, mais au moins c'est coordonné.
Alors, les coordonnées, on n'a pas forcément, on n'a pas de bureau.
D'accord.
On a une adresse mail où on peut nous joindre. C'est survie49 qui s'attache à @laposte.net. On a aussi un compte Facebook qui s'appelle Survie Angers.
D'accord.
On n'a pas de bureau. On organise en général nos réunions. On se réunit au centre Jacques Tati à Angers, dans le quartier.
Oui, à Belle-Beille, oui. C'est ça.
Voilà.
Et au niveau de cette antenne d'Angers, donc en 10 ans, quelles ont été les actions qu'elles ont menées ?
Alors, on a fait beaucoup de choses différentes. Alors, on s'appuie souvent sur des tournées d'intervenants organisées par Survie Nationale. On fait venir notamment des militants africains ou alors des personnes qui ont écrit des livres, des dossiers noirs. On organise surtout des conférences, on va dire, sur différents sujets. Je me souviens, au début, on a beaucoup organisé des conférences sur le Sahel, puisqu'il y a 10 ans, c'était l'intervention de la France au Mali. Donc on a organisé notamment une de nos premières conférences, c'était sur ce sujet-là. On a pu faire aussi des projections débats autour de films ou de documentaires, parfois en partenariat avec Cinéma d'Afrique. Je me souviens notamment lors des 20 ans ou des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, on avait fait venir un rescapé du génocide, Vénus Kayimae. Et on avait diffusé un documentaire sur les génocides et puis après il avait pu témoigner de son expérience et de ce qu'il avait constaté sur place sur le rôle de la France puisqu'il travaillait à l'ambassade de France. Nous avons fait cette même année-là une action de rue aussi sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qu'on appelle un porteur de parole, où on était dans la rue et on interrogeait les gens sur ce qu'ils pensaient du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Ils pensaient que c'était possible que la France ait pu avoir un rôle et voilà, pouvoir échanger avec les gens dans la rue là-dessus.
D'accord.
Voilà.
En tout cas, si je suis bien les informations, vous ne manquez pas de sujets à remonter au grand public.
Non.
Malheureusement, il y en a peut-être certainement un peu trop d'ailleurs.
Il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est pas les sujets qui manquent. On a même du mal dans l'association à traiter tous les sujets qu'on aimerait, de l'interventionnisme militaire aux questions de prédation et de domination économique, d'institutions économiques, de diplomatie. On a aussi beaucoup, et notamment des membres de Survie Angers ont beaucoup travaillé ces dernières années sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie Kanaky et sur la question des référendums d'indépendance qui ont lieu ces dernières années. On a d'ailleurs eu une conférence l'année dernière qui nous ont animé là-dessus.
Donc, ouais,
non, les sujets ne manquent pas.
D'accord. Et juste comme ça... Vous n'avez jamais eu de soucis, entre guillemets, avec soit l'État français, soit un État africain ?
Alors, récemment, moins. Mais par contre, François-Xavier Verchat, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait connaître la France-Afrique et qui a écrit un bouquin qui s'appelait « La France-Afrique, le plus grand long scandale de la République » et ensuite d'autres livres, a été, lui, attaqué en justice par des chefs d'État africains à l'époque pour injure à chef d'État étranger, je ne sais plus exactement, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans la loi, Et donc, il a été attaqué en justice et il a gagné son procès.
Ok. Bien. Eh bien, nous sommes le 9 décembre et le jeudi 15 décembre, vous avez, enfin, la section de Survie Angers organise quelque chose à Angers et vous allez nous en parler.
Oui, on organise donc jeudi prochain 15 décembre à 20h, salle d'avis à Angers, en partenariat avec Attac 49.
Alors, je vous coupe parce qu'il est important de noter que c'est d'une entrée libre.
Donc oui, c'est une entrée libre, bien sûr.
Voilà.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une entrée libre. Et donc, ça sera une conférence que j'animerai en partie sur le projet de Total aujourd'hui en Ouganda et en Tanzanie. Le projet pétrolier Total en Ouganda et en Tanzanie. Total prévoit de forer plus de 400 puits aux abords du lac Albert en Ouganda, dont le tiers au cœur du plus vieux et plus grand parc naturel ougandais. Et de construire un oléoduc géant de plus de 1400 km pour transporter ce pétrole jusqu'à l'océan Indien en traversant l'Ouganda et la Tanzanie. C'est un projet contre lequel on se bat à la survie depuis bientôt 8-3 ans maintenant. Avec les Amis de la Terre France et des ONG ougandaises, on a attaqué Total en justice il y a 3 ans, puisque ce projet crée des violations de droits humains sur place et entraîne des risques de destruction irréversible de l'environnement dans ce pays. Et donc voilà, cette conférence a pour objet de présenter ce projet-là, de parler de ses conséquences et de parler de la lutte qu'on mène, notamment via cette action en justice contre Total depuis 3 ans, dont une audience a eu lieu avant-hier, justement, et donc on attend le verdict fin février.
Alors justement, voilà. je m'apprêtais à vous poser la question, vous en êtes où de cette action? Donc en fait, vous en êtes au bout là, donc vous attendez le...
Non, malheureusement on n'est pas au bout. En fait, on a attaqué Total Injustice il y a 3 ans, en référé, donc en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence.
Oui.
Sauf qu'on a dû faire face à une bataille procédurale, puisque lors de la première audience il y a 3 ans, nous avons perdu sur la question, enfin nous avons perdu en tout cas, le juge devant lequel nous avions porté l'affaire s'est dit incompétent et a dit qu'il fallait qu'on emmène cette affaire devant un autre juge, et notamment, et en l'occurrence, le tribunal de commerce, ce qu'on a contesté. Et donc, pendant 2 ans, nous avons mené une bataille procédurale contre Total pour que nous puissions aller devant un tribunal judiciaire et non un tribunal de commerce.
D'accord.
Donc, nous avons gagné cette bataille l'année dernière, il y a un an. La Cour de cassation nous a donné raison. Et entre-temps, le législateur a changé la loi qu'on utilise pour ce recours, qui est une nouvelle loi qui n'a jamais été utilisée avant. C'est la loi devoir de vigilance, qui rend responsables les maisons-mères des actes de leurs filiales à l'étranger sur les droits humains et l'environnement. Donc voilà, donc okay. Cette bataille procédurale, on l'a gagnée, mais on a perdu 3 ans dans l'action initiale. Et donc là, il y a 2 jours, c'était un retour de notre affaire en première instance devant le tribunal qu'on souhaitait pour que soit jugé le cœur de l'affaire.
D'accord. Donc la prochaine étape, là, ça va être...
La prochaine étape, c'est le verdict qui va être rendu le 28 février. Donc
c'est pas tout de suite.
Plus de 2 mois, voilà. Et ensuite, en fonction du verdict, on verra est-ce que Total sera condamné, est-ce qu'il y aura d'autres questions juridiques à trancher, et voilà.
D'accord. Bon, à suivre alors.
À suivre, voilà. On compte beaucoup sur cette audience parce que sur place, il y avait déjà eu urgence il y a 3 ans et encore aujourd'hui.
Bah, j'imagine, oui.
Voilà.
Eh bien, en ce qui concerne donc Survie 49, est-ce qu'il y a d'autres projets à court ou moyen terme d'action?
Oui. On a déjà une conférence, une projection et conférence qui va être organisée le 12 janvier au centre Jean Villard à Angers. Et là, c'est sur un autre hors noir, c'est sur le pillage des œuvres d'art africaines et du patrimoine culturel africain. Et on va faire venir Philippe Baquet, qui est l'auteur d'un dossier noir, donc un ouvrage de la collection qu'on porte, sur cette question du pillage des œuvres d'art. Donc il y aura un petit film qui présentera le sujet, puis ensuite lui qui interviendra et qui échangera avec le public sur ce sujet-là. Okay. Et c'est un partenariat avec Cinéma d'Afrique.
Merci. Je vais devoir m'arrêter là parce que nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie, Pauline Tétillon, pour cette interview. Prenez soin de vous et puis j'espère que le Covid va vous laisser tranquille prochainement. Et puis, ben, on vous retrouve, on a dit que c'était l'intervention le jeudi 15 décembre, salle d'Avier à 20h pour cette...